France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée de la lutte contre les discriminations. Vous avez la parole, amis auditeurs, dans une dizaine de minutes, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application France Inter. Marlène Schiappa, bonjour.
Bonjour.
Vous avez durement critiqué, Marlène Schiappa, la cagnotte Litchi en soutien au boxeur de la passerelle Sangor qui a violemment frappé deux gendarmes, dont l'un au sol. Au dernier pointage, lundi matin, la cagnotte atteignait au minimum 118 000 euros. Suite à vos propos et aux réactions qu'ils ont déclenchées, vous avez décidé de porter plainte hier. Pour quelle raison exactement ?
Alors, j'ai déposé une plainte, ça n'est pas la première, hélas, mais en général, j'en parle pas. J'en ai déposé plusieurs, il y a eu des procès, certaines personnes ont déjà été condamnées, puisque depuis 18 mois, un peu plus maintenant que je suis au gouvernement, je fais partie, comme beaucoup de femmes en politique, eh bien, je suis la cible d'opérations, de menaces de mort, de cyberharcèlement ciblé, d'appels haineux, menaçants, injurieux, etc. Et là, ça a effectivement dépassé un stade, et donc j'ai considéré que ça valait de déposer une plainte pour les milliers de menaces de mort, d'injures et de cyberharcèlement coordonnées reçues en quelques 24 heures. Oui.
Comment vous expliquez, il y a le meilleur et le pire sur les réseaux sociaux. Le pire, ce sont ces insultes anonymes que les hommes politiques, les femmes politiques, les journalistes, tout le monde se prend régulièrement, mais il y a une forme de jubilation particulière à cibler les femmes.
Absolument. D'ailleurs, complètement, c'est le mot, à humilier les femmes. Quand on regarde un petit peu la sémantique des insultes qui sont utilisées, les insultes sont aussi extrêmement violentes à l'endroit des responsables politiques ou de toute personne qui a une parole publique et qui sont des hommes. Mais ce n'est pas le même champ lexical qui est utilisé. Il y a une jeune congresswoman des États-Unis qui vient d'être élue, Alexandria Ocasio-Cortez. Je vous invite à suivre son fil Twitter, notamment, dans lequel elle dénonce systématiquement ce qu'on appelle le double standard. C'est-à-dire un homme, on va l'insulter sur ses idées, une femme, on va la sexualiser. Et moi, c'est ce qu'on voit. Il y a des appels au viol, il y a des propos très orduriers, des menaces de sévices sexuelles. On me dessine en poupée gonflable, on fait des photomontages où je suis à demi-nue. On me traite de noms à connotation sexuelle. Donc c'est effectivement
oui, plus l'antisémitisme.
Un sexisme. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui dépasse ma personne et qui est quelque chose qui concerne le traitement des femmes en général dans l'espace public.
Mounir Majoubi a annoncé que vous allez déposer en 2019 une loi, justement, une loi pour le retrait des propos haineux sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, quand on dit ça, d'un côté c'est très bien, de l'autre côté c'est comment vous allez déposer une loi comme ça sans nuire à la liberté d'expression.
Absolument, c'est une vraie question. Il y a un rapport qui a été fait par des parlementaires et dès lors que nous avons terminé cette matinale, j'ai un rendez-vous de travail avec eux. C'est des parlementaires et des experts, d'ailleurs de la société civile, c'est le rapport Avia Taïeb contre la haine en ligne. Et avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, et le ministre de l'Intérieur, bien sûr, Christophe Castaner, nous sommes très mobilisés et nous travaillons justement sur une loi qui permette de retirer les contenus haineux. Mais je crois que il y a une limite en fait à la liberté d'expression. Cette limite, ça s'appelle la loi. On n'a pas le droit de proférer des propos antisémites, des menaces de mort, des injures publiques. C'est interdit par la loi, donc c'est aussi interdit sur les réseaux sociaux. Et je crois qu'il est temps que Twitter, Facebook et tous les hébergeurs eh bien, se soumettent aux lois de la République comme tout le monde.
Vous avez demandé, Marlène Schiappa, à ce que la liste des donateurs de cette fameuse cagnotte en faveur du boxeur soit rendue publique. Avez-vous obtenu cette information de la part de Litchi qui héberge et accueille cette cagnotte ou rétrospectivement était-ce une erreur de demander cette
Alors,
liste?
Alors ce n'est pas exactement ce que j'ai demandé. Alors je sais qu'on est justement dans un débat public où on raccourcit un petit peu les propos des uns et des autres.
Enfin, l'idée c'est de ne pas le faire de manière anonyme.
Non, voilà exactement. L'idée c'est en fait un principe bancaire de base qui est bien connu des institutions bancaires qui s'appelle le Know Your Customers. Vous êtes censé connaître et pouvoir identifier les personnes qui font des transactions financières. Et ce que j'ai demandé, ça n'est pas moi, Marlène Schiappa, avoir un tableur Excel avec les noms des donateurs de la cagnotte Litchi, ça ne me concerne en rien. Ce que j'ai demandé, c'est que ça puisse être rendu public. Et j'ai posé une question, je la mets au pot commun du débat public. Ma question, c'est qui finance les violences, qui finance les casseurs? Et je crois que ça n'est pas incongru de poser la question en se demandant est-ce qu'il
Donc
y a par exemple
pas,
de l'argent.
Il n'y a pas une forme de... Vous regrettez pas de... Vous n'êtes pas allé trop loin dans la volonté de transparence de demander la liste des donateurs, de demander de fermer Litchi?
Alors je viens de vous dire, ouais. Léa Salamé, que moi je n'ai pas demandé moi d'avoir la liste des donateurs.
Quand on vous entend ce que vous dites précisément, c'est j'aimerais bien savoir qui a payé.
Non, la question que je ce que je dis, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, je pose cette question. Je dis ça exactement en ces termes. Je dis qui a donné. Et par exemple, le fait de savoir si oui ou non, il y a des puissances étrangères qui financent les casseurs et les violences urbaines dans Paris, c'est intéressant, notamment eu égard aux positions de certains responsables italiens.
Chantal Jouanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public, a décidé de ne pas piloter le grand débat qu'elle devait organiser suite à la polémique sur son salaire. Ce matin, Benjamin Griveaux juge qu'elle doit tirer tous les enseignements de ce retrait et démissionner totalement de la tête de la Commission nationale du débat public. Vous êtes d'accord avec lui ?
Écoutez, moi je juge pas la décision personnelle de Chantal Jouanneau, néanmoins je la déplore et je trouve ça un petit peu, effectivement, je trouve ça pose question de dire mon salaire pose problème, et je ne me prononce pas sur le salaire, c'est pas le sujet, mais de dire mon salaire pose problème, donc je me déporte de ce débat, mais je conserve mon poste et le salaire en question. Où il y a un problème, effectivement, interpersonnel, et effectivement, dans ces cas-là, il faut qu'elle en tire les conséquences, où il n'y a pas de problème, et il faut qu'elle mène jusqu'au bout ce travail sur lequel elle s'est engagée.
Son salaire des 14 000 euros, ce n'était pas pour organiser le débat public, c'est le salaire qu'elle touche depuis un
Absolument.
An pour 70 missions.
Pardonnez-moi, mais c'est d'autant plus étrange de dire je touche ce salaire, notamment pour le débat public, et donc j'arrête le débat public et je conserve le salaire. Et cela dit, moi je ne suis pas pour la chasse au salaire des uns et des autres, ni la chasse aux riches, ni la chasse... Voilà, c'est effectivement...
C'est un risque, la chasse aux riches, aujourd'hui, en
non,
France.
Non, écoutez, moi j'ai personne dans mon entourage, dans ma famille, je n'ai personne qui gagne 14 000 euros. Moi, je ne suis pas dans une famille et j'ai pas des amis qui gagnent ce type de montant. Néanmoins, ce sont des montants assez classiques des directeurs de haute administration publique française. Peut-être qu'il y a un débat, peut-être qu'il faut remettre sur la table l'ensemble de ces montants de salaire. C'est une possibilité.
En tout cas, le grand débat que vous avez lancé est mal parti. Beaucoup dans votre propre
camp. Comme vous y allez.
Bah, il est mal parti, non ?
C'est pas particulièrement.
Beaucoup dans votre propre camp, même dans La République En Marche, même certains ministres, même certains députés disent « Oh là là, c'est une usine à gaz qui va aller dans tous les sens et qui va donner la parole aux plus extrêmes ». Qu'est-ce que vous leur dites ?
D'abord, moi je me méfie beaucoup des propos anonymes ou des propos pas assumés. Moi, on me reproche parfois d'avoir trop de liberté de parole, mais je me cache pas derrière mon petit doigt quand j'ai quelque chose à dire. En ce qui concerne ce grand débat, moi je crois que, comme on dit, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Et la meilleure manière de faire en sorte que ce débat ne fonctionne pas, c'est de se répéter en boucle comme une prophétie autoréalisatrice, ce débat ne va pas fonctionner. Moi, j'y mets beaucoup d'énergie, à la fois pour faire en sorte que les femmes, qui ont été très nombreuses autour des ronds-points, prennent toute leur place dans ce débat, mais aussi avec La République En Marche, en pilotant le groupe de travail sur la démocratie et la citoyenneté, avec un certain nombre d'experts, de sociologues, de marcheurs, de députés, nous allons apporter notre propre contribution à ce débat avec des propositions concrètes. Donc moi, je pense que c'est un débat qui
peut fonctionner. Mais quelle va être la place des ministres ? Est-ce que les ministres sont là pour parler dans ce débat ou pour se mettre de côté, vous allez faire quoi ?
Moi, je pense que nous sommes là dans ce débat, quand nous serons invités, si nous sommes invités, pour nous taire. Une fois n'est pas coutume. Et moi, si des organisateurs décident de me convier à certains de ces débats, eh bien, je me mettrai dans la salle avec mon carnet et mon stylo. Je ne prendrai pas la parole et j'écouterai tout simplement ce qui se dit, comme je l'ai fait lors du Tour de France de l'égalité femmes-hommes, la grande consultation que j'avais déjà organisée l'année dernière.
Chantal Jouanneau, à ce micro, a maintenu hier qu'il ne pouvait pas y avoir de thème tabou sur le mariage pour tous, par exemple. Est-ce que vous estimez qu'on ne doit même pas poser la question, même pas en parler ? Je ne dis pas revenir sur la loi, mais juste en débattre si, ici ou là, dans le cadre de ce grand débat, les citoyens assemblés décident de le faire.
Attendez, les gens sont libres d'avoir les conversations sur les sujets qu'ils veulent. Donc je ne suis pas en train de dire que je vais interdire à des personnes de parler même du mariage pour tous. On peut tout interroger.
Pardon, mais c'est ce que dit Benjamin Griveaux.
Alors, je termine mon propos. Ouais. Encore une fois, la nuance. Mais au-delà de parler, il y a mettre au débat. Ce débat, c'est pas un grand défouloir et c'est pas l'occasion de trouver des boucs émissaires. En l'occurrence, les personnes homosexuelles. Ce débat, il est circonscrit à quatre grands thèmes. La fiscalité, la justice fiscale, la question de la transition écologique, la démocratie, la citoyenneté et puis l'organisation de l'État. Il ne me semble pas que le mariage pour tous concerne l'organisation de l'État. Donc à un moment, remettons un peu de rationalité dans le débat. Ça n'était même pas une revendication des Gilets jaunes, ni au début, ni par la suite. Il y a des groupuscules que l'on connaît bien, d'extrême droite, identitaire, anti, parfois certains homophobes, qui veulent troller les débats. Justement, l'organisation de ce débat, elle doit être assez variée et assez neutre pour permettre que ça ne soit pas le cas.
Un Français sur deux, 47%, pense que le gouvernement ne tiendra pas compte de ce qui se dira dans ce débat. Alors par exemple, cas concret, si toutes les remontées disent il faut rétablir l'ISF, que dira le gouvernement dans 3 mois ? Il dira très bien, on a noté, vous voulez tous rétablir l'ISF, et ben on ne change pas de cap.
Alors, le gouvernement tranche au final. C'est-à-dire que le gouvernement, et moi je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'on a beaucoup dit qu'on faisait de la politique autrement, mais néanmoins, dans faire de la politique autrement, il y a faire de la politique. Le président de la République, il a été élu sur un programme, mais aussi sur des valeurs. Nous sommes un gouvernement progressiste et nous n'allons pas revenir sur des progrès sociaux, mariage pour tous, IVG, etc. En tout cas, j'y veillerai personnellement.
L'ISF.
En ce qui concerne, j'y viens. En ce qui concerne l'ISF et la fiscalité, l'ISF, ça faisait partie du programme du président de la République. Et donc, moi, ce que j'ai dit à titre personnel, c'est que je souhaitais qu'il y ait une évaluation de la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. Cette évaluation, elle a été lancée. Le Premier ministre a installé un groupe de travail. Nous verrons ce qui ressort de ces débats, mais je crois qu'il faut pas...
Ça sert de débattre.
Mais c'est pas un débat pour ou contre l'ISF.
Non, mais
c'est
si,
un
ce, débat qui remonte, si c'est ce qui remonte, c'est rétablissez l'ISF.
Eh bien, écoutez, il y a des... Dans ces cas-là, il faudra que le gouvernement l'étudie et réfléchisse, mais je crois que le président de la République a indiqué que le but de ce débat, ce n'était pas de défaire ce qui vient juste d'être voté. Et je le dis d'autant plus tranquillement que vous savez que ma position est plus nuancée sur ce sujet, ma position personnelle. Mais je crois qu'à un moment, il faut avoir un respect aussi de la démocratie représentative.
Mais vous comprenez l'ambiguïté, de ce que vous dites. Vous dites que c'était dans le programme présidentiel, donc on n'y touche pas, puisque c'était sa promesse de campagne, on n'y touche pas, mais on va quand même débattre, on peut débattre de l'ISF. Si l'ISF dit, si on dit on rétablit l'ISF, ben on bouge pas, on écoute, mais on ne sait pas.
Mais c'est l'ISF, ça le problème. L'ISF a existé pendant 40 ans. Est-ce que ça, au-delà du côté symbolique auquel on peut être attaché, et je fais partie de gens qui pensent que ça peut être débattu ce côté symbolique. Mais au-delà du côté symbolique, est-ce que ça a amélioré les conditions de vie des personnes les plus pauvres dans ce pays ?
Je ne le crois pas. C'est pas ça le but de l'ISF.
Ah bah c'est un impôt de solidarité sur la fortune. Donc c'est aussi ce qui participe
c'est
au consentement à l'impôt.
Tout le monde paye selon ce qu'il doit payer.
Tout à fait, c'est ce que je suis en train de vous dire.
Un impôt fléché spécifiquement pour
réduire les inégalités. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il a été transformé en impôt sur la fortune immobilière. Et moi, je crois qu'il faut l'évaluer. Et il n'y a pas de tabou. Si on doit parler de l'ISF, eh bien, il y aura des ateliers.
La première évaluation, si vous me permettez, c'était la Une du Monde d'hier après-midi, c'est que la suppression partielle de l'ISF a entraîné une baisse drastique des dons aux associations.
Oui, bien sûr, il faudra regarder ce sujet en face et en tirer toutes les conséquences. Mais justement, ce débat, il fait partie, le but de ce débat, c'est aussi d'innover et de travailler ensemble. Il y a un millefeuille d'impôts. Et d'ailleurs, la question des cagnottes, si on peut prendre un peu de hauteur au-delà d'un tel ou un tel, dans telle ou telle cagnotte, au-delà des trolls ou des blagues ou des injures. La question des cagnottes, pour moi, elle est intéressante parce qu'on a là des gens qui nous disent qu'ils ont un rejet vis-à-vis de l'impôt, mais qui en même temps veulent bien donner à des cagnottes de solidarité, c'est-à-dire recréer une forme d'impôt lorsqu'il est fléché. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'il n'y a pas assez de clarté sur les impôts. On a un millefeuille fiscal en France, et sans doute ce grand débat sera-t-il, je parle sous l'autorité de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin qui sont aux responsabilités sur ces sujets, sans doute ce débat sera-t-il l'occasion de remettre sur la table la lisibilité de l'impôt pour avoir plus de consentement à cet impôt.
Marlène Schiappa, la réforme des institutions est reportée après le grand débat. Est-ce que ça veut dire qu'on repart d'une page blanche, en quelque sorte, et que là, pour le coup, les citoyens sont sollicités dans le cadre de ce débat pour réfléchir à ces sujets-là? Si la proportionnelle intégrale, par exemple, est réclamée, si le référendum d'initiative citoyenne est désiré, est-ce qu'ils seront adoptés? Est-ce que c'est ça le sens?
Alors, je pense qu'on ne repart pas d'une page blanche, pour répondre clairement à votre question. Là encore, il y a des engagements de campagne, il y a un travail qui a été mené par la garde des Sceaux et puis par des députés, Sacha Houlier notamment, et d'autres. Mais, bien évidemment, on ne peut pas décider maintenant de ce qui va aboutir à l'issue de ce grand débat national. Et la question constitutionnelle et la question des institutions, je crois qu'elles sont très importantes et qu'elles seront au cœur de ces débats. Et donc, ce texte, il sera amendé, me semble-t-il, par les propositions qui sortiront de ce grand
débat.
Donc
ça pourrait être une réforme institutionnelle beaucoup plus profonde que celle qui était déjà dans les tuyaux du gouvernement.
Il ne m'appartient pas d'en décider seul à votre antenne, mais c'est un sujet qui sera en débat avec les ministres en charge, oui, bien sûr.
Est-ce que l'une de ces conséquences, des conséquences de ce débat, peut être la fin de la Ve République ?
Je ne le crois pas. Moi, je pense que dans ce débat, il faut avoir ce qu'on peut appeler des invariants, des socles. Et je crois qu'il ne faut pas, de la même façon qu'on ne peut pas remettre en question les valeurs de la République au cours de ce débat, ou les acquis sociaux tels mariage pour tous, IVG, abolition de la peine de mort, etc. Je pense qu'il ne faut pas toucher à la Ve République. C'est ma conviction personnelle.
Allez, on file au standard de France Inter. On nous attend. Cécile, soyez la bienvenue. Bonjour.
Bonjour à toute l'équipe. Voilà, je suis un peu perplexe quant aux propos de votre invité. Quand M. Macron était membre du gouvernement lors de la présidence précédente, Donc il était acteur politique, il a pu observer donc finalement tout ce qui s'y passait, il a pu aussi faire ses propres choix et décider d'innover, j'imagine c'est ce qui l'a motivé à se présenter aux élections présidentielles. Ensuite il a parcouru toute la France, donc avec son mouvement En Marche, donc il est allé à la rencontre des Français, il a pu dialoguer avec eux, observer leurs problèmes de fin de mois, les problèmes d'écologie. Et finalement, au bout de 18 mois, eh bien, il recommence. Un grand débat national. Et pourquoi donc ? 6 mois de perdu ? Il a été élu pour agir. Qu'est-ce qu'il a ? Enfin, quel est son besoin de devoir de nouveau...
Vous déplorez, Cécile, vous déplorez qu'il y ait à nouveau un grand débat, c'est cela ?
Ah oui, je pense que c'est de la poudre aux yeux, tout simplement. C'est en fait, j'ai l'impression, en tant que simple citoyenne, j'ai l'impression que finalement, nous sommes liés par les lobbies, nous sommes liés par les contraintes de l'Europe, et je suis absolument apolitique, mais j'ai l'impression que finalement, le gouvernement est tout à fait lié par ces contraintes, qu'il n'a aucune marge de manœuvre,
bien
et
compris.
Donc il gagne du temps.
Merci Cécile, Marlène Schiappa vous répond, merci encore.
Oui, bonjour Cécile, merci pour votre intervention et votre question. Moi, j'entends à la fois que vous avez une forme de scepticisme vis-à-vis de ce grand débat national et en même temps des choses à dire et peut-être des choses à proposer. Donc, je ne peux que vous inviter à y participer. Et puis peut-être, si vous me permettez un commentaire, déplorer qu'on reproche un peu tout et son contraire au président qui fait un peu paratonnerre de 40 ans d'inaction ou de pas assez d'action et pas assez de respect des engagements de tel ou tel responsable politique de tous bords au demeurant. On ne peut pas reprocher au président à la fois de ne pas assez écouter et puis de trop écouter, de ne pas assez réformer et de trop réformer. Donc j'ai l'impression qu'on est là dans une forme de cristallisation des reproches, mais j'invite vraiment chacune et notamment Cécile à participer à ce grand débat pour exprimer ce qu'elle vient d'exprimer sur votre antenne.
Loïc est en ligne, bonjour et bienvenue.
Bonjour madame.
Bonjour.
Je m'appelle Loïc, j'habite au Canada habituellement. J'avais une question relative à l'autorité parentale partagée et à l'égalité entre hommes et femmes en affaires juridique, où on a encore de grandes avancées à faire sur le sujet. Et je fais face, moi, à une véritable culture de l'exclusion paternelle en justice, face aux services sociaux et tout ça. C'est une question qui existe depuis très longtemps en France, etc., et qui semble pas vraiment aboutir. Qu'est-ce qui est prévu pour permettre, dans une optique féministe aussi, et de respect de l'égalité des hommes et des femmes, permettre aux papas de devenir des vrais parents et permettre une égalité enfin réelle.
Voilà. Merci Loïc pour cette question. Marlène Schiappa.
Merci Loïc, c'est une question très intéressante. Avant d'y répondre, deux phrases très rapides sur le Canada, puisque j'y serai la semaine prochaine pour la passation du G7, puisque vous savez qu'en 2019, la France prend la présidence du G7 et le président de la République a indiqué que l'égalité entre les femmes et les hommes serait à cette occasion une forme de grande cause mondiale. Donc nous faisons la passation sur l'égalité femmes-hommes au Canada, justement la semaine prochaine. Je reviens au sujet l'égalité parentale. C'est un sujet extrêmement intéressant sur lequel on travaille avec des parlementaires, notamment la question de la résidence alternée entre les parents. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut davantage d'égalité et permettre davantage aux pères de s'impliquer dans les responsabilités parentales.
Il y a un biais qui leur est défavorable aujourd'hui ?
Oui,
c'est
bien sûr.
La question que vous posez,
bien
Loïc.
Sûr, oui. Moi, je crois que de la même façon que les femmes, et j'ai travaillé sur ce sujet une dizaine d'années quand j'ai présidé le réseau Maman Travail, de la même façon que les mères sont discriminées dans la sphère professionnelle, les pères souffrent d'une forme de discrimination dans la sphère parentale. Il y avait une étude de l'Observatoire de la responsabilité sociétale qui était publiée sur la place des pères dans la publicité, qui montre que les pères dans la publicité sont systématiquement scénarisés comme en position d'échec, comme celui qui ne sait pas faire, comme un peu le parent de substitution. Je crois qu'il faut justement travailler là-dessus, mais sur la résidence alternée, moi j'y suis personnellement favorable à ce que ça devienne la norme si on a des garde-fous, notamment en cas de violence conjugale, faire en sorte que le parent qui s'adonne à des violences conjugales, qui est l'agresseur dans les violences conjugales, eh bien, ne puisse pas continuer à garder une forme d'emprise dans cette garde alternée. Ce garde-fou étant mis sur le principe, oui.
Léa, et puis on retourne au standard.
Yann Moix, dans Marie-Claire, s'est dit, je le cite, « incapable d'aimer une femme de 50 ans, ces femmes sont pour lui invisibles parce que le corps d'une femme de 50 ans n'est pas extraordinaire du tout. » Ça vous a choqué ou au fond, il a le droit de désirer qui veut ?
Mais écoutez, il y a deux sujets, vous venez de le dire, moi je crois qu'on ne choisit pas, Yann Moix, pas plus que vous, moi, ou les auditeurs et les auditrices de France Inter, on ne choisit pas par qui on est attiré, physiquement ou sexuellement, et on ne choisit pas de qui on tombe amoureux, ce serait bien trop facile et trop pratique. Donc je crois qu'on ne peut pas blâmer Yann Moix qui dresse un constat, et puis qui parle finalement de ses névroses personnelles, là-dedans, si on lit l'interview au global. Maintenant, il y a un vrai sujet sur la visibilisation des femmes de plus de 50 ans dans l'espace public, et notamment dans les films. Moi, je travaille beaucoup avec une association qui s'appelle le Tunnel des 50. Ce sont des comédiennes qui se sont fédérées en dressant le constat qu'à partir de 50 ans, elles n'ont plus de rôle, on ne les appelle plus, et qu'on les rappelle après 70 ans pour jouer la petite mamie de la famille, etc. Et que donc, dans l'imaginaire public, effectivement, le corps, le visage d'une femme de la vie de tous les jours, entre 50 et 70 ans, eh bien, il est passé à la trappe.
Oui. On retourne au standard. Emmanuel nous appelle de Lille. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous
et on vous écoute.
Bonne journée à tous. Merci. J'ai une question, je reviens sur l'aspect économique du débat en cours. En fait, ma question, elle concerne le prélèvement de l'impôt, notamment l'impôt sur le revenu qui concerne 45% des ménages aujourd'hui. Et je suis plutôt proche de La République En Marche, mais j'ai quand même une question sur la pédagogie, ou plutôt l'absence de pédagogie actuelle, pour expliquer que on veut plus de prélèvements d'impôts actuellement, on veut redistribuer à tous, et que d'un point de vue basiquement comptable, l'équilibre entre ce qu'on prélève et ce qu'on rend ne fonctionne pas, on peut pas faire les deux à la fois. Mmh. Et je trouve que le gouvernement manque une opportunité actuelle d'expliquer ça et de revenir sur une pédagogie assez basique, voire simpliste, désolé pour ça, mais sur cet équilibre-là aujourd'hui.
Merci pour votre intervention, Emmanuel. Marlène Schiappa.
Oui, bonjour Emmanuel, merci pour votre question, elle est très intéressante. Il y a deux sujets. D'abord, la question du prélèvement à la source, et là, je crois qu'on ne peut pas dire que Gérald Darmanin manque de pédagogie, parce qu'il a vraiment été sur le terrain et travaillé, et d'ailleurs, je salue son travail et celui des agents de Bercy et des fonctionnaires de Bercy, puisqu'il n'y a eu à ce stade aucun bug à déplorer, contrairement aux inquiétudes qui s'exprimaient. Maintenant, sur la question de l'équilibre des finances publiques, moi, je crois que c'est un vrai sujet. C'est un sujet rationnel, je le disais en début d'interview, je crois qu'il faut remettre justement de la rationalité dans le débat. Et effectivement, dans ce débat, dans ce grand débat national qui va s'ouvrir, la question de la justice fiscale, elle devra être abordée de la sorte, en disant qu'on ne peut pas à la fois demander moins de rentrées d'argent pour l'État, c'est-à-dire moins d'impôts, et en même temps plus de dépenses pour les services publics, pour les prestations, etc. Il y a une question de balance et d'équilibre qu'il va falloir poser sur la table à un moment, effectivement.
Il nous reste une minute.
Dans le nouveau livre de notre collègue Frédéric Mettezo, Vieux renard et jeune loup, aux éditions de l'Archipel qui vient tout juste de sortir, il laisse entendre que vous pourriez avoir la tentation de Paris après vous avoir rencontré Marlène Schiappa, candidate à Paris, ce serait possible ?
Alors, à Paris, oui, mais pour être maire de Paris, non. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Je soutiens pleinement la future candidature. Je souhaite qu'il soit candidat, en tout cas, de mon collègue Benjamin Griveaux. Et si d'aventure je devais être candidate à Paris, ce serait dans le cadre d'une équipe autour de Benjamin Griveaux.
Merci Marlène Schiappa d'avoir été au micro de France Inter ce matin.